Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. L'euro, le foot et le malaise sur la pelouse de Copenhague. Christian Eriksen, meneur de jeu danois, 29 ans, inconscient, massage cardiaque, hospitalisation. Il reprend connaissance peu après, mais les Danois ne sont plus dans le match. Un incident qui va laisser des traces. De l'alcool, pas de masque et beaucoup trop de monde dans ce stade de Biarritz hier soir. Derby basque de rugby. Au-delà des jauges, le préfet saisit le procureur. Couvre-feu à 23h, épidémie en baisse, vaccin en hausse, de quoi donner des envies de danser. Fête géante aussi sur l'esplanade des Invalides avec intervention de la police pour la deuxième soirée consécutive. Et puis aussi Israël, le jour J, peut-être le dernier de Netanyahou dans le fauteuil de Premier ministre, et la Biennale de Lyon dans une usine désaffectée.
Les invités, dans un instant à 8h20, question à deux têtes de liste pour le régional. 8h20, Thierry Mariani, soutenu par le Rassemblement National en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à 8h30, Audrey Pulvar, soutenue notamment par le Parti Socialiste en Ile-de-France.
France Inter.
Il s'apprête à recevoir un ballon. On est à la 43e. Soudain, il s'écroule. Christian Eriksen, 29 ans, meneur de jeu de l'équipe danoise, victime d'un malaise. Massage cardiaque pendant un long quart d'heure sur la pelouse. Hospitalisation ensuite. Christian Eriksen reprend connaissance peu après et demande même à ses coéquipiers de finir le match, leur premier dans cet Euro de foot. Encore sous le choc, les Danois vont s'incliner 1-0 face à la Finlande, mais le score Jérôme Val en devient anecdotique.
L'image de la sortie de Christian Eriksen sur civière entouré d'un drap blanc a été un choc, mais les nouvelles ont vite été rassurantes. Ses partenaires ont alors demandé de reprendre le match là où il s'était arrêté. Décision logique pour Peter Møller, le directeur de la fédération danoise.
Nous lui avons parlé quand il était à l'hôpital. Les joueurs ont échangé avec Christian, il va bien. C'est une triste nouvelle dans ce match, mais l'important c'est qu'il s'en est sorti. Les joueurs ont voulu jouer ce match pour lui et nos pensées sont allées à ses parents et à sa famille.
Au final, les Danois ont perdu leur duel privé de leur maître à jouer. Malgré ce scénario, le sélectionneur danois Kasper Hjulmand n'a rien à reprocher à son équipe.
Notre groupe de joueurs, il est formidable. Je ne saurais être plus fier de ce soir. Ce sont des hommes qui prennent soin les uns des autres. Moi, j'ai vu un ami qui m'est très cher souffrir énormément. Et toute mon énergie positive sont pour Christian ce soir.
Plus que le résultat, la frayeur autour de Christian Eriksen a ému le monde du football avec de très nombreux messages tout au long de la soirée.
Car évidemment, on a tous en tête cet arrêt cardiaque et fatal du jeune Camerounais Marc-Vivien Foé en 2003 en pleine Coupe des Confédérations. Christian Eriksen, lui, est ce matin dans un état stable. Il va rester à l'hôpital le temps de faire des examens complémentaires. Et puis l'euro encore, la Belgique qui démarre fort, la Russie écrasée 3-0 à suivre aujourd'hui. Angleterre-Croatie, Pays-Bas-Ukraine ou encore cette rencontre inédite Autriche-Macédoine du Nord. Le foot aussi, mais de l'autre côté de l'Atlantique. La Copa América au Brésil sera-t-elle la Copa Corona? Les équipes du Venezuela et de Bolivie déjà frappées par des cas positifs hier à la veille de l'ouverture. Une compétition très critiquée qui commence aujourd'hui donc au Brésil, un pays qui frôle les 500 000 morts du Covid. Beaucoup de monde, beaucoup trop de monde dans ce stade Aguilera de Biarritz hier soir, au-delà de la jauge des 5 000. Des supporters en folie qui ont envahi la pelouse quand leur club a signé la victoire. Signe d'un retour dans le top 14 de rugby également. C'était le derby basque face à Bayonne. Avec sur le terrain plus de blessures que d'essais, un vrai combat entre voisins ennemis qui s'est même terminé, c'est rare, par une séance de tir au but. Mais ce que le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu, lui, c'est bien plutôt cette ambiance survoltée au mépris de tous les gestes barrières et du protocole sanitaire. Laurence Méride.
Et ce sont peut-être ces images vues sur les réseaux sociaux qui ont déclenché la colère du préfet. Biarritz se l'emporte, les supporters oublient les gestes barrières et envahissent la pelouse du stade Aguilera pour fêter la victoire. Dans la foulée, Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, publie un communiqué réprobateur. La jauge du stade Aguilera, fixée à 5000 personnes, a manifestement été dépassée. Et ce n'est pas tout. Selon le préfet, pendant la rencontre, la police a constaté la vente d'alcool à emporter, pourtant interdite au sein du stade, et les contrôles du pass sanitaire n'ont pas été systématiquement réalisés par le club à l'entrée. C'est néanmoins, rappelle Eric Spitz, de la responsabilité des organisateurs de faire respecter ces règles pour éviter une propagation du Covid. L'affaire pourrait d'ailleurs leur coûter cher. Le préfet veut des sanctions. Il a saisi le procureur de la République.
Laurence Méride, et puisqu'on parle rugby, surprise hier avec la sortie de Clermont, c'est Bordeaux-Bègles qui se qualifie pour la première fois de son histoire pour les demi-finales finale du top 14. Une fête géante sur la pelouse, rien à voir cette fois avec le sport, bis repetita hier soir. Comme la veille, des centaines de jeunes se sont retrouvés pour danser sur l'esplanade des Invalides en plein cœur de Paris, avec encore une fois intervention des forces de l'ordre. Reportage Farida Noir.
Il y a des meufs de partout, il y a des mecs de partout.
Des jeunes déchaînés, heureux de faire la fête sur la pelouse noire de monde, Chérine se lâche.
C'est le couvre-feu décalé à 23h, du coup ça a réveillé une euphorie parmi nous et du coup on s'est dit on sort, on profite, on en a marre du Covid, c'est tout.
On a bien tenu, c'est vrai qu'on a beaucoup respecté.
Eden et Sarah ont besoin elles aussi de décompresser.
Là, on profite, c'est l'été, c'est le beau temps.
On lâche tout ce qu'on a retenu pendant un an et demi.
Ah, ça fait du bien.
C'est pas pour foutre la merde, mais c'est vraiment pour profiter.
Mais sans geste barrière et avec peu de masques, il est bientôt 23h, les CRS tentent de repousser les fêtards en dehors de l'esplanade.
La police, ils sont un peu contenus ce soir, j'ai l'impression. Nous, on s'amuse, vous voyez. On est tranquille, ça fait un an, on est confiné, ça fait un an, on fait rien.
Mais il y a beaucoup trop de monde là, vous respectez pas les distances.
Ouais, mais vas-y, c'est fini ça.
Mais l'ambiance festive se tend, des bouteilles en verre sont jetées sur les forces de l'ordre. Certains jeunes décident alors de quitter la fête.
Ça fait 10 mois qu'on est enfermés, on veut juste s'amuser et là il y en a qui foutent la merde pour rien.
Mais d'autres veulent en profiter jusqu'au dernier moment.
Il est un peu tard, 22h39, encore 21 minutes et c'est le couvre-feu, mais bon, ça il faut bien s'amuser dans la vie. One life.
Les forces de l'ordre chargent une dernière fois pour dégager l'esplanade qui se vide. Il est 23h30, le couvre-feu est dépassé, la fête est finie.
Bilan 3 interpellations, les autorités qui appellent à ne rien lâcher malgré les voyants au vert. Moins de 5000 cas de Covid par jour en France et 30 millions de primo-vaccinés depuis hier. Autre effet de la crise et des confinements, le 39-19, la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences, se retrouve débordée. Faute de moyens, dénoncent les associations, 40% des appels sont restés sans réponse. Françoise Brié est la directrice de la Fédération Solidarité Femmes.
Nous avons pris en charge près de 100 000 appels en 2020 et il y avait environ 160 000 appels entrants à l'époque. Donc on voit bien qu'une augmentation de 70% des appels. Ça a été une période extrêmement intense et complexe. C'est compliqué de pouvoir répondre à l'ensemble des appels entrants, sachant que les femmes pouvaient rappeler. Il faut savoir que l'écoute téléphonique des femmes victimes de violences est une écoute qui demande du temps, entre 20 minutes à une heure dans les situations les plus complexes. Ce qu'on a noté aussi, c'est qu'on a eu un grand nombre d'appels de familles, de proches, beaucoup plus que d'habitude. Ce qui est positif, c'est que les écoutantes, appuyées par 19-20 professionnels du réseau Solidarité Femmes, ont pu prendre en charge plus de 23% d'appels supplémentaires.
Françoise Brié de la Fédération Solidarité Femmes qui gère ce numéro, le 39-19. Elle répondait à Yann Gallic.
C'est l'information de la nuit. Le complotiste Rémi Daillé et sa famille ont été expulsés de Malaisie.
Soupçonné d'avoir contribué à distance à l'enlèvement de la petite Mia, mi-avril, dans les Vosges, Rémi Daillé, sa compagne et leurs trois enfants ont été remis aux autorités françaises attendues à Paris demain matin. Le jour où tout peut basculer en Israël, le Parlement devrait tourner la page Netanyahou aujourd'hui. Le Premier ministre, 12 ans au pouvoir, sur un siège éjectable. Session spéciale à la Knesset ce midi, résultat attendu vers 18h ce soir. À moins d'un revirement de dernière minute, la coalition la plus large qu'on ait jamais vue devrait l'emporter. Une coalition qui va de la gauche à la droite radicale en passant par le parti islamiste. Qu'importe, les anti-Bibi sont à l'euphorie. Parfum de victoire hier dans les rues de Jérusalem pour la désormais traditionnelle manifestation du samedi soir sous les fenêtres du Premier ministre. Reportage de notre correspondant Frédéric Mettezo.
J'en ai marre, ça c'est fait.
Carrure imposante, plus de 2 mètres de haut, Chahir, 62 ans, ne supportait plus les injures du camp Netanyahou. Traître, gauchiste, terroriste.
On est tous fait l'armée, on veut Israël comme un pays normal. Le racisme, le fascisme, c'est terrible.
Depuis un an, Sabine descend ici tous les samedis soirs. Elle a écrit son petit message en lettres bleues sur un carton blanc.
Bibi, c'est fini, comme Capri, c'est fini. Israël se targue d'être la seule démocratie du Moyen-Orient. Si on continue avec Bibi, on n'est plus de démocratie du tout. On a bien vu toutes les lois qu'il a essayé de faire voter pour pouvoir annuler son procès.
Même si le successeur potentiel de Netanyahou est un nationaliste de droite, Sylvie estime que Bibi doit partir pour que les Israéliens, juifs et arabes se réconcilient.
On est arrivé presque à la guerre civile, il y a un mois de ça, dans les villes qui ont flambé. Ce nouveau gouvernement symbolise l'union et c'est ce dont on a besoin le plus dans ce pays aujourd'hui. Même des musulmans, vous avez vu.
Tout à leur fête et tout à leur joie, ces manifestants souffleront vraiment ce soir quand le nouveau gouvernement sera investi.
Dégage,
Jérusalem.
Dégage.
Frédéric Mettezo, France Inter.
Premières élections législatives en Algérie depuis le soulèvement populaire et le départ de Bouteflika il y a 2 ans. Mais ce sont les mêmes au pouvoir et c'est une abstention record. 30% seulement de participation. En bref, encore rassemblement de la droite espagnole dans le centre de Madrid tout à l'heure. Une mobilisation contre la volonté du Premier ministre de gracier les indépendantistes catalans condamnés pour la tentative de sécession il y a 4 ans.
À une semaine des régionales en France, eh bien on poursuit notre tour de France dans ce journal de 8h.
Oui, direction l'Outre-mer, car là aussi on vote dimanche prochain pour le premier tour, comme en Guadeloupe, où la gauche espère là retrouver son fief contre le président sortant, étiquette En Marche. Maxence Lambrec avec nos confrères de Guadeloupe la Première.
Il a démarré sa campagne par 30 heures de garde à vue. Le président sortant, Harry Chalus, marcheur de la première heure, aurait dépassé il y a 6 ans le plafond des dépenses de campagne. Son adversaire socialiste, présidente du département, Josette Borrell l'Incertain, a aussi eu le droit à sa garde à vue début mai, cette fois pour prise illégale d'intérêt présumé. Mais en Guadeloupe, ce n'est pas une première et nombreux sont ceux qui, impliqués dans des affaires, ont été réélus. Pour reprendre son fief perdu en 2015, la gauche n'a pas réussi à se rassembler. 2 listes s'affrontent, celle donc de Josette Borrell l'Incertain, avec à ses côtés l'ancien ministre et patron PS de la région, Victorin Lurel, et celle de Max Mathiasin, député Modem, soutenu par le Parti Socialiste Guadeloupéen et par ailleurs mis en examen pour abus de confiance et détournement de biens publics. La droite, elle, n'a aucune chance de victoire mais se lance derrière Sonia Petro. Le RN, lui, est représenté par la députée européenne Maxette Pierre-Bacasse. Parmi les débats de la campagne, toujours la gestion de l'eau, sa facturation, les vieilles canalisations. Plus de la moitié de l'eau produite en Guadeloupe se perd à cause des fuites d'un réseau vétuste.
Et parmi les autres listes en Guadeloupe, le régionaliste Alain Plaisir, le souverainiste Tony Delaney, le camp des travailleurs autour de Jean-Marie Nomertin, Christelle Nanor, la région au service du peuple, et puis Éric Corollian, sentinelle Guadeloupe. Il n'y aura peut-être pas ou peu de boulettes de fioul finalement sur les plages de Corse. La pollution s'éloigne vers le large. Malgré tout, la nappe d'hydrocarbures est toujours là en Méditerranée. Plages fermées, pêche interdite, opérations de dépollution et de pompage aussi depuis hier matin. 3 navires soupçonnés d'être à l'origine de ce dégazage sauvage ont été repérés.
Et si on dansait maintenant?
L'été bientôt venu, Biennale de danse de Lyon, 19e édition. Cette année dans l'ancienne usine Fagor dans le quartier de Gerland. Alors à la place des machines à laver, des installations vidéo gigantesques et des performances réparties sur 30 000 mètres carrés de friches industrielles. On se laisse porter avec ce reportage signé Stéphane Capron.
Ah bah la grosse patate, hein. Et surtout on a tout donné à la fin, ça fait du bien de revenir au spectacle.
Les 77 danseurs réunis par le chorégraphe Seydo Lelou ont mis le feu sur le grand plateau. 22 professionnels, 45 amateurs pour une forme explosive qui célèbre le bonheur retrouvé d'être ensemble.
C'est vraiment la place de l'individu dans la masse, de la prise de parole, de la responsabilité collective, de la volonté de s'assumer auprès du groupe. Pour moi, c'était l'hymne à la jeunesse aujourd'hui. Hein.
La jeunesse est au cœur des 11 projets imaginés par Dominique Hervieux, la directrice de la Biennale, qui a donné carte blanche au chorégraphe.
Je vois bien que les artistes ont un goût de liberté qui les fait sortir des cadres, qui les fait sortir des théâtres et qu'un lieu comme ça, je me suis dit, là, ils vont pouvoir imaginer des formes qu'ils ne peuvent pas faire dans un théâtre, en fait, ni dans un musée.
Christophe Alleb présente la plus grande installation de la Biennale sous une canopée de 900 mètres carrés, des fils, des vidéos de danseurs qui racontent la jeunesse d'aujourd'hui.
Ils ont une grande conscience, on va dire, ils ont une hyper conscience de la situation. Ils ont envie de tout mettre à plat, de dire on arrête avec les idioties de racisme, d'homophobie. Du coup, c'est des thèmes qui sont récurrents. Évidemment, la problématique écologique, elle est transversale à tout ça.
Et cet après-midi, cette jeunesse va se retrouver pour une grande battle de 3 heures au rythme de la house music.
19e édition de la Biennale de la danse de Lyon jusqu'au 16 juin. Enfin, là aussi, c'est une danse, si on veut. Une danse avec raquettes et baskets. Finale de Roland-Garros, Djokovic numéro 1 mondial, tombeur de Nadal face au jeune grec Tsitsipas numéro 5 qui joue, lui, là, sa toute première finale de Grand Chelem. Le duel, c'est à 15h. Et puis, on n'oubliera pas au passage de saluer ceux qui sauvent l'honneur en bleu, blanc, rouge. Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert en double et en grand vainqueur de Roland-Garros hier pour la 2e fois de leur carrière. Enfin, chez les dames, consécration pour la Tchèque Barbora Krejčíková. Voilà, vous savez tout.
On sait tout dans le journal d'Hélène Roussel. Merci Hélène. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros.
parce que votre activité n'attend pas. Les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Jean-Michel Golinski, c'est l'été avant l'heure. Hein.
Le jour se lève dans un ciel souvent bien dégagé, ce qui est de très bon augure pour cette journée où absolument tout le pays va profiter d'un temps parfaitement bleu. Il faut dire que les nuages bas côtiers du sud de l'Aquitaine et de la Côte d'Azur ne vont pas résister longtemps. En début de journée, l'écart des températures est important entre les 10 degrés le long de la Manche et les 23-26 autour de la Méditerranée. En journée, le soleil vaillant et l'air chaud qui remonte d'Afrique vont faire rougir les thermomètres jusqu'à 36-37 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et l'intérieur de la Provence et 30 degrés en moyenne sur le reste du pays avec 30 prévus sur le centre Val-de-Loire, le bassin parisien, le Grand Est, 31 sur le sud de la Bretagne et 23 à 25 degrés le long de la Manche.
Jean-Michel Golinski, Météo France.